Donc je suis historienne de l'art. J'enseigne donc avec Chris Younes à l'école spéciale d'architecture. Je suis également muséographe et je travaille donc depuis une quinzaine d'années en association avec un architecte paysagiste, notamment sur des projets où la participation active avec les habitants des quartiers sont essentielles. Donc ce titre, Anthropocène, art et création artistique, donc Chris n'a pas évoqué cette notion d'anthropocène, donc
j'ai oublié.
Très brièvement, je vais commencer par là, très brièvement. Donc vous le savez certainement, c'est un terme qui est utilisé à peu près depuis les années 2000 par un certain nombre de scientifiques. Et ce terme désigne une hypothèse, l'hypothèse d'un nouvel âge géologique qui serait marqué donc par l'impact des activités humaines sur l'ensemble du système terrestre. Et en gros, en l'espace, parce qu'au niveau des datations, c'est la raison pour laquelle n'a pas été encore annoncée finalement notre entrée réelle dans cette ère de l'Anthropocène. Mais en gros, on peut dire que depuis deux générations, c'est-à-dire depuis les années 50 à peu près, l'homme est devenu la force géophysique prédominante qui a le plus modifié la planète, entraînant donc par sa seule action la transformation de la biosphère, du vivant, de la biodiversité, mais aussi de l'atmosphère et de l'hydrosphère, responsables des changements climatiques que l'on sait, de l'extinction et de la migration globale d'espèces et des modifications à grande échelle de la végétation naturelle, de la déforestation, etc., etc., etc. Alors même si ce terme n'est pas très heureux, mais là n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, je dirais qu'il a au moins ce terme l'avantage, en tout cas, de nous faire passer à autre chose qu'à ce référentiel de la modernité qui n'est plus opérant pour nous raconter. Et également qu'il a l'avantage, ce terme, de nous amener à nous positionner autrement qu'en termes de progrès et de développement, développement durable, d'expansion et de futur, qui est une invention finalement assez récente. Hein. Le futur advient avec le début du XXe siècle comme concept. Donc autrement qu'en termes de futur, alors que la véritable question à se poser aujourd'hui, me semble-t-il, serait plutôt de se demander ce qui peut engager la pensée afin de faire advenir de nouveaux possibles. Donc c'est moins la question du futur que quelque chose qui vient vers nous. Car pour l'instant, et là n'est pas le moindre des paradoxes pointé par ce concept d'anthropocène, plus l'ampleur et la réalité de l'impact des activités de l'espèce humaine donc sur le système terrestre sont avérées et mis en avant par des scientifiques, par des philosophes, hein, ou bien encore par les politiques au travers des questions d'aménagement et d'écologie urbaine, moins finalement, nous nous sentons en capacité de produire des effets sur la réalité qui nous entoure. Il y a une forme d'anesthésie. Alors pourquoi cette anesthésie? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas des êtres globaux. Et qu'il nous est très difficile d'entendre, mais plus que d'entendre en fait, de ressentir, de sentir tous ces changements à l'échelle du globe, justement, alors que tout, finalement, dans nos conditions et modes d'existence, nous insensibilise ou nous déconnecte en tout cas de cette expérience et de ce rapport au monde. Dans ces conditions, la question c'est comment finalement est-il possible de donner à voir ce que nous ne voyons plus et de rendre proche finalement et accessible ce qui nous semble si lointain et si difficile à sentir et à percevoir. Alors si on admet que notre réponse à ces changements globaux est également façonnée par la représentation de ces changements, on peut alors s'interroger sur la façon dont l'art, la création, peuvent contribuer à une prise de conscience de ces transformations, voire même être partie prenante et agissante dans ces transformations. Alors, dans le temps qui m'est imparti, il y aura, vous comprendrez, toute une part manquante à cet exposé qui mériterait d'autres développements et beaucoup plus de temps. Donc, j'ai juste choisi de mettre en exergue certaines scènes, certains reliefs et articulations par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus ample, en vérité, et beaucoup plus ouvert et généreux que ce que je vais en dire maintenant. Alors peut-être pouvons-nous commencer cette communication en essayant d'y voir plus clair par rapport à ce que désigne l'art et la création écologique, en envisageant dans un premier temps les différents termes et terminologies et régimes esthétiques, en tout cas, qui lui sont le plus communément associés. Et sur ce terrain, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas en panne, tant il y a de termes, finalement, pour désigner cet art écologique qui existe, finalement, maintenant, depuis plus de 50 ans. Alors, il s'est vu accoler différents termes. Vous avez certainement entendu parler d'éco-art, de green art, de bio-art, de land art, this work, d'art environnemental, ou encore d'esthétique environnementale, etc., etc. Alors, je vais commencer peut-être par dissiper un premier malentendu, ou une première confusion, en tout cas assez répandue, concernant ce qui est souvent attribué comme l'héritage premier, ou le substrat en tout cas commun, des pratiques de l'art écologique, à savoir le land art. Le land art qui est, comme vous le savez, un mouvement artistique qui s'origine aux États-Unis dans le courant des années 60. Alors une confusion, pourquoi ? Eh bien parce que s'il existe bien un substrat commun qui, pour le dire très rapidement, se forge autour de l'idée de paysage, en réalité, pour moi, les choses s'arrêtent là. Les artistes du land art n'étant absolument pas en prise, en réalité, avec des questions d'ordre écologique. Jamais, dans leur pratique, on ne trouve ni le souci du paysage, ni l'attention au paysage, si ce n'est bien entendu pour des questions d'ordre plastique. Ceux qui regardent la nature en tant que milieu de vie, en tant qu'écosystème, tissu de relations, n'appartient pas à leur langage ni pratique artistique, pas plus qu'il n'existe chez eux, d'ailleurs, de plaidoyer en faveur d'une préservation de la nature en ce qu'elle serait finalement menacée ou impactée par cette activité humaine que désigne l'anthropocène. Fondamentalement, les paysages, ou plus exactement, en fait, la saisie du paysage présente dans leurs œuvres. Donc, vous savez, ce sont essentiellement des paysages vierges de toute culture, hein, de grandes zones désertiques à l'ouest de l'Ouest américain, restent et sont envisagées par ces artistes comme finalement de grandes toiles, des décors ou des scènes pour pouvoir y expérimenter en toute liberté. Et cette dimension de liberté est extrêmement importante à ce moment, enfin, au moment des années 60, puisque la question pour eux est véritablement c'est de pouvoir s'émanciper de l'institution muséale, des galeries. Et la question fondamentale à l'époque, c'est la question du contexte de l'art et notamment de l'autonomie de l'œuvre d'art. Donc, ils sont partis effectivement en dehors des galeries et des musées pour pouvoir travailler dans ces grands paysages. Donc, besoin d'y expérimenter des possibilités formelles et plastiques très étendues et extrêmement spectaculaires. Et essentiellement, effectivement, à partir de matériaux trouvés sur les sites, hein, c'est-à-dire la terre, le bois, les roches, le sable, l'eau, etc., etc. Alors, parmi ces artistes, on trouve notamment quelqu'un comme Robert Smithson, qui est le grand théoricien de ce mouvement, et également Michael Heiser. Donc là, vous avez à l'écran le projet de Spiral Jetty de Robert Smithson, et ensuite ce projet de Michael Heiser, double négative, de 69, qu'il a conçu au Nevada. Donc on voit bien ici, dans ces deux œuvres, que ces artistes ne se sont pas véritablement préoccupés de savoir quel était l'impact de leur intervention sur cette nature vierge, hein. Des interventions qui, comme vous le voyez, sont pourtant extrêmement lourdes. Hein. La construction, par exemple, de double négatif de Michael Heiser, c'est véritablement fait à coup de bulldozer et a demandé le déplacement de plus de 240 000 tonnes de roches. Donc il y a beaucoup d'exemples dans le Land Art. Comme cela, on pourrait parler également des emballements de cristaux. Donc ce n'est pas un jugement plastique par rapport à leurs œuvres, mais simplement pour dire que le Land Art n'est pas en prise avec cette question de l'écologie. En revanche, dans cette distinction, c'est-à-dire cette prise d'écart par rapport au Land Art, je mets quand même à part les travaux notamment de quelqu'un comme Richard Lang, qui appartient aussi au Land Art, hein, mais en tout cas qui s'en est plus ou moins dissocié, notamment par de nombreux écrits. Alors pourquoi Richard Lang? Donc vous voyez, c'est un travail essentiellement sur la marche, hein, et l'empreinte, hein, finalement, de cette marche sur le site. Alors pourquoi je le mets à part? Parce que ces processus de création se réalise d'une façon beaucoup moins intrusive et beaucoup moins impactante, en tout cas, et beaucoup plus dématérialisée et éphémère aussi, en se réalisant pour l'essentiel au travers de cette pratique lente de la marche, une action de marcher qui relève pour lui d'un rapport à l'expérience, de l'expérience par le corps, du rapport au site, mais qui relève aussi d'une saisie psychique du rapport au milieu naturel. Alors, en cela, on peut dire que Richard Lang est très très proche d'un autre marcheur infatigable, hein, qui s'appelle David Thoreau, et notamment de ses nombreux écrits sur la nature. Et ce sont plus certainement, en réalité, les écrits de Thoreau qui constituent le véritable substrat, ou en tout cas la véritable filiation de l'art écologique tel qu'il fait son apparition, on va le voir maintenant, aux États-Unis dans le milieu des années 60. Donc si le Land Art n'a pas grand-chose à voir avec l'art écologique, en revanche, ces années 60 aux États-Unis sont effectivement des années où émerge une vive sensibilité et une très grande prise de conscience citoyenne par rapport aux questions liées à la pollution, notamment, et notamment la pollution chimique de l'environnement. Je parle de sensibilité et de prise de conscience, parce que c'est notamment par la littérature, et non pas au travers ou par la médiation de savoirs scientifiques ou politiques, qu'advient le réveil de cette sensibilité nouvelle aux États-Unis par rapport aux questions environnementales. Et c'est donc un livre, et non pas des publications scientifiques, un livre, celui de Rachel Carson, qui s'intitule « Le printemps silencieux », qui est d'abord ce livre publié sous forme d'article dans le New Yorker, avant de paraître en livre, en ouvrage, en 1962, qui va véritablement être le détonateur, le déclencheur, et déchaîner un véritable débat public à partir de ces années, donc 1962. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, dans son livre, qu'elle commence par « Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique », elle y décrivait, Rachel Carson, une campagne silencieuse, une campagne sans voix, d'où l'on n'entendait plus le chant des oiseaux tous morts, en raison de la répercussion sur leur métabolisme des pesticides utilisés pour éradiquer les insectes, définis alors dans la catégorie des nuisibles. Et en orientant ses armes contre les insectes, Carson, dans ce livre, Le printemps silencieux, mettait en évidence que c'est l'homme, en fait, qui l'a pointé aussi contre la terre, cette arme, et donc, bien entendu, contre lui-même. Donc c'est à la publication de cet ouvrage, Le printemps silencieux, que l'on attribue en général l'origine des mouvements environnementalistes américains, des mouvements qui sont extrêmement militants et qui vont donner lieu d'ailleurs dès la fin des années 60 à la promulgation de nombreuses lois en faveur de la protection de l'environnement. Alors des lois sur la propreté de l'eau, de l'air, des espèces en voie de disparition, etc., etc. Et c'est donc sur ce terrain extrêmement militant que s'inscrit et s'origine l'art écologique, en tout cas aux États-Unis, à partir de ces années 60. Mais avant d'évoquer cet art écologique donc, qui naît aux États-Unis et qui se structure, et c'est aussi une grande disjonction avec le Land Art, exclusivement sur le territoire urbain, et se caractérise en particulier par des actions engagées sur un environnement déjà modifié par l'activité humaine, je souhaitais faire un détour en évoquant cette figure emblématique de l'art écologique et de cette implication dans le social et dans l'activisme, en évoquant le rôle qu'a joué dans cette filiation un artiste capital comme Joseph Beuys. Alors, tout le monde connaît Joseph Beuys, ou croit le connaître. Mais peu connaissent sans doute les actions et performances majeures qui ont trait à l'art écologique et qui font de Beuys véritablement une figure pionnière en ce domaine. Donc là, vous avez une photographie qui relate une de ses performances, « I like America and America likes me », qui est une performance qui date de 1974. Donc je vous passerai les détails de la venue de Beuys sur le sol américain depuis l'Allemagne. Mais en 1974, voilà, il se rend aux États-Unis pour y donner cette performance à la galerie René Bloch. Et il va donc passer ainsi une dizaine de jours en autarcie totale dans cette galerie new-yorkaise, enfermé avec un coyote sauvage, en partageant avec lui le même territoire vital, celui de la galerie donc, et en étant filmé et observé par un public de visiteurs qui se rendent pour voir cette performance en étant protégé derrière les grillages. Donc voilà pour le contexte et les acteurs. Maintenant, pour ce que Buzz a cherché à vouloir dire ou à faire ressentir au travers de cette performance, c'est cette vision duelle entre la nature et la culture, entre l'homme et l'animal, et donc à mettre en évidence au travers de ce face-à-face, absolument pas négocié, les liens, mais surtout la construction de liens possibles et de modes de coexistence possibles au sein d'un même milieu, au travers d'un apprivoisement mutuel entre humains et non-humains. Un autre projet de Beuys, hein, qui est peut-être celui qui, de lui, est le plus connu, il s'agit du projet de 7000 Oaks, 7000 Chênes, donc, qui se déroule en 1982, lors de la Documenta 7 à Castle. Donc, il s'agit pour Beuys, hein, de pointer du doigt au travers de cette performance la minéralisation à grands pas de cette ville de Cassel au détriment des espaces boisés et des espaces paysagers qui lui sont petit à petit finalement retirés. Et donc il va engager cette action qui va se poursuivre durant plusieurs années après sa mort, hein, sa mort qui advient en 1986, et s'est mise cette action dans plusieurs villes d'Allemagne, d'Europe, hein, mais également outre-Atlantique. Le premier, et donc il va faire cette action de plantation, de reforestation, en plantant 7000 chênes. Donc le premier de ces chênes sera planté par lui, et le dernier par son fils, qui représente les générations futures. Donc chaque chêne est associé à une colonne de basalte hein, qui lui sert de sorte d'étalon de mesure à la croissance de l'arbre, et le public est invité à venir donc s'associer à cette reforestation. Une reforestation qui constitue pour Beuys bien plus qu'une performance, même s'il faut le rappeler qu'il est l'un des tout premiers à l'inventer ou à inventer ce mode de production artistique qui se réalise par l'action. C'est un des premiers activistes de l'art, de l'histoire de l'art. Cela constitue pour lui ce qu'il formulera comme relevant plutôt de ce qu'il appelle une sculpture sociale, dans la mesure où cette action associe puissamment le public en tant qu'acteur lui-même d'une action artistique qui intéresse la communauté dans sa capacité à transformer et à faire exister les choses autrement. De la même façon, pour lui, il n'y avait pas de démarcation entre nature et culture, et de la même façon, il ne devait plus y avoir de démarcation entre art et vie. Il y avait, dit-il, il y avait l'art, Et l'art, pour lui, c'est, je cite, « là où on s'occupait de créer un milieu de vie ». Mais voilà, nous allons revenir donc aux États-Unis. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'art écologique outre-Atlantique apparaissait donc dans les années 60 et que cette entrée en scène coïncidait donc avec la naissance des premiers mouvements environnementalistes américains. Je vous ai dit également qu'il avait mis très longtemps à trouver une reconnaissance. En réalité, cet art écologique ne sera véritablement reconnu par le champ de la critique qu'à partir des années 90, grâce notamment à une série d'articles et une exposition qui s'intitule « Fragile écologie » qui va être organisée à New York en 1992 et qui réunira les principales figures de cet art écologique. À partir de ces années, certaines de ces pratiques artistiques en prise avec donc, ces questions environnementales seront notamment regroupées sous l'appellation de « Reclamation Artist » and « Land Reclamation Artist ». Terme donc de « reclaim » que l'on peut traduire par « réhabilitation » au sens de « régénération » de ce qui a été empoisonné, donc la pollution des sols, etc., etc., mais aussi « reclaim » au sens de « réclamation », au sens de « récupération », afin de reprendre ce dont on a été dépossédé. Et donc, l'action de ces artistes, de ces « reclamation artists », sont à cet égard donc en prise avec des sites, avec des milieux, des écosystèmes ayant subi des dommages. Donc parmi ces reclamation artists, je vais vous parler du travail de ces trois personnes que sont Alan, son fils, Patricia Johnson et Merle Ladermack-Euclid, en ce qu'ils me semblaient les plus représentatifs des différentes voies ouvertes à partir desquelles il sera possible ensuite d'interroger la production artistique la plus récente et la plus proche de nous, à savoir cette esthétique anthropocène. Donc Alan son fils, au travers de ce projet qui s'appelle Time Landscape, qu'il élabore en 1965 et qui va mettre à peu près 13 ans ce projet à sortir de terre et à se réaliser. Donc c'est un projet qui prend place sur une nouvelle sur une parcelle entre Soho et Greenwich Village et sur un ancien terrain vague, un délaissé urbain qui s'apparente en fait plus à une décharge. Et son fils va y proposer l'aménagement d'un parc, mais pas n'importe quel parc. Sa proposition part de sa volonté de réintroduire sur ce site les essences premières de l'île et qui auraient ces essences continué de pousser si l'environnement naturel de l'île n'avait pas été modifié par l'action de l'homme, avec notamment l'arrivée des premiers colons. Donc il s'agissait, pour lui, au travers de ce projet, véritablement d'un projet de régénération, de reforestation en milieu urbain, mais en même temps d'un projet en prise avec la dimension culturelle, dans la mesure où il permettait également, ce projet, une reconnexion avec l'histoire de ces premiers migrants et l'histoire donc culturelle de l'île de Manhattan. Et ce qui est intéressant également dans la démarche de son fils, et c'est d'ailleurs quelque chose de commun à de nombreux artistes des Land Reclamation, c'est d'être reparti finalement sur les bancs de l'université, en l'occurrence pour lui, d'avoir repris des études d'agronomie. Il a réalisé comme cela un certain nombre d'autres projets de reforestation en milieu urbain et périurbain. Et on reconnaît chez lui, comme également chez cet autre artiste, Patricia Johnson, dont je vais parler, l'héritage notamment de cet architecte paysagiste qui s'appelle Helmstedt, Frédéric Leo Helmstedt, qui est notamment le créateur de Central Park, qui est un parc essentiellement pensé pour ses vertus curatives, et Helmstedt, pour qui justement cette dynamique naturelle et la préservation des espèces pionnières était quelque chose d'extrêmement fondamental. Le fils de Frédéric Helmstedt, qui est également un architecte paysagiste, sera d'ailleurs à l'origine du parc de Yosemite, qui est envisagé véritablement comme un conservatoire de nature et à partir duquel s'origine la préservation de nombreux parcs naturels aux États-Unis. Le projet de Patricia Johnson, donc il s'agit d'un projet qui s'intitule Fair Park Lagoon, qui se situe donc à Dallas, au Texas. Et dans ce projet, Patricia Johnson, il s'agit d'un projet de réhabilitation donc d'une zone marécageuse abandonnée, zone marécageuse abandonnée du parc municipal de la ville de Dallas, où s'accumulaient des eaux de ruissellement, notamment très chargées en polluants chimiques. Donc l'étude des lieux par Patricia Johnson l'a conduit à s'inspirer de deux plantes locales, de fougères, pour concevoir des structures en béton coloré aux formes organiques pour venir stabiliser les berges de cette mare créée à partir de tout un travail de phytoremédiation avec notamment des plantes dépolluantes. Et par tout ce travail, finalement, d'enchevêtrement de tiges, de feuillages, de sculptures, donc elle va créer spécifiquement sur ce site, en s'inspirant justement de ces deux fougères, elle a pu ainsi constituer une nouvelle hospitalité aux espèces végétales et animales. C'est notamment un parc qui s'inscrit sur la route de certains oiseaux migrateurs qui avaient complètement disparu et qui aujourd'hui sont revenus s'y installer. Donc dans ce projet, on le voit, cet artiste a permis à la fois de rendre le site à nouveau viable, c'est-à-dire support de vie, et de recréer en même temps des liens avec les hommes et leur environnement naturel. On voit aussi que l'eau, ce thème de l'eau est extrêmement important dans de nombreux projets de ces reclamation artists, que ce travail donc de l'eau, que ce travail sur des zones humides constitue un motif privilégié pour rappeler justement des représentations de tous ordres, mais surtout des représentations symboliques. Des représentations symboliques au travers de cette dimension artistique, naturaliste et de remédiation. Et comme pour son fils, Patricia Johnson a complété elle aussi sa formation artistique par une formation scientifique en botanique et en biologie, et s'entoure souvent pour ses projets d'équipes pluridisciplinaires qui interviennent comme consultant ou comme conseiller. Un autre projet d'une artiste que j'aime énormément, il s'agit de Mel Ladermel ou Kless. Donc c'est une autre des très grandes figures avec... enfin, c'est une autre des très très grandes figures donc, de ce mouvement des Recognition Artists. C'est une des autres grandes différences avec le mouvement du Land Art que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans ce regroupement des Land Recognition Artists, il y a beaucoup de femmes. Alors que le mouvement du Land Art était un mouvement exclusivement, à peu de choses près, était un mouvement exclusivement masculin. Donc, Mel Ladermel ou Kless, hein, c'est cet artiste dont on peut dire que toute l'action artistique se structure autour de la question du soin, du fait de prendre soin, de faire attention, d'entretenir cet espace du commun qu'est l'espace public. Et cette éthique du soin, hein, du care, hein, qui ne s'appelle pas encore comme cela, cette éthique du care sera formulée outre-Atlantique, notamment au travers d'un ouvrage de Carol Gilligan, qui paraît en 1982 sous le titre de A Different Voice, et qui sera traduit en français en 2008 sous le titre d'Une voix différente. Mais les actions, elles, de Hookless prennent place bien avant, à savoir à la fin des années 60. Alors on peut résumer l'action de cet artiste par une question assez simple qu'elle s'est posée, à savoir, après la Révolution, qui ramassera les poubelles lundi matin ? Et dans une interview donc, assez récente, elle raconte que tout son univers a basculé lorsqu'elle est devenue mère pour la première fois. « J'ai été choquée, raconte-t-elle, de découvrir que toutes mes études, toute ma culture, ne m'avaient absolument pas préparée à m'occuper de quelqu'un, à subvenir à ses besoins, à le laver, à le nourrir. Ma culture, mon éducation, mes études m'avaient appris à aller de l'avant et non pas à répéter, à effectuer les mêmes tâches encore et encore. Notre culture, poursuit-elle, nous donne l'illusion que nous sommes autonomes. Elle se cantonne à cette idée de progrès, mais nous dépendons tous de quelqu'un ou de quelque chose. Nous sommes coincés sur la même planète, tous ensemble. Nous ne sommes pas dans une navette spatiale, filant droit devant elle. » Et donc devant cette sidération, cet état de maternité nouvelle, elle rédige en 1969 un manifeste qui s'appelle « Maintenance Manifesto », que l'on pourrait traduire par « le manifeste de l'entretien », où elle y développe cette idée du soin commun, au travers de pratiques connectives, de pratiques socialement engagées, collaboratives et participatives, visant à reconstruire et à régénérer des modes de vie soutenables. Donc j'évoquerai juste très rapidement l'un de ces projets qui s'intitule « Touch Sanitation », qui est un projet de 1973. Et en 1973, Hookless obtient une bourse comme artiste en résidence et propose un projet qui va l'amener à venir travailler dans la ville de New York, notamment au département d'assainissement. Et dans ce projet artistique, elle se propose de faire un travail finalement, qui permettrait de renouer le dialogue et de mettre en œuvre une action participative pour sortir de l'ombre tous ces hommes, toutes ces femmes qui, pour elles, sont parmi les personnes les plus importantes de la ville de New York, à savoir les ramasseurs d'ordures, sans lesquels, dit-elle, très vite, la ville s'asphyxierait et entraînant un désordre social irrémédiable. Donc elle entreprend de les rencontrer, de les suivre sur leur lieu de travail, de partager avec eux leur quotidien. Et il va lui falloir à peu près un an pour rencontrer les 8500 employés du service de nettoyage, donc des éboueurs, des balayeurs, du personnel administratif, à qui elle va serrer symboliquement la main en les remerciant de garder New York en vie. Pas propre, mais en vie. Et elle va documenter donc chacune de ses rencontres avec chacune de ces personnes au travers de films, d'enregistrements sonores, de photographies et de scriptage, d'inscription de chacun de ses trajets quotidiens, de ses parcours qu'elle va reporter sur des cartes. Donc on voit ici avec cet artiste Auclès que la dimension écologique est ramenée à une sphère beaucoup plus domestique, non pas extérieure, mais beaucoup plus intérieure et intériorisée, c'est-à-dire là où les gens vivent, là où les gens cohabitent et construisent des modes d'existence dans une géographie de tous les jours, dans une quotidienneté et une expérience sensible de ce que veut dire prendre soin, de ce que veut dire faire attention, et qui ne découle pas d'une pensée ou d'une approche générale ou générique de l'écologie, mais d'une pensée et d'un sentir qui met en contact avec une expérience particulière. Donc par la suite, Claes s'intéressera notamment au thème des décharges, en s'entourant elle aussi d'équipes pluridisciplinaires qui réunira des architectes, des paysagistes, des géographes, des scientifiques, des ingénieurs. Et elle travaille notamment actuellement sur deux immenses décharges, celle de Irira en Israël et cette autre décharge de Freshkill sur Staten Island à New York. C'est une décharge qui a été le plus grand site d'enfouissement de déchets au monde et qui est en passe de devenir très prochainement le deuxième poumon vert de New York avec une surface équivalente à 3,5 fois Central Park. Donc ce qui est intéressant de noter au travers de ces trois exemples, de ces trois artistes et de ces trois projets, c'est que le corpus de ce qui entre dans le cadre environnementale au cours de ces années 70 et qui est pris donc en charge par cette esthétique écologique est déjà extrêmement large et extrêmement ouvert. Il n'y a pas en effet de ligne de démarcation entre ce qui relèverait exclusivement de l'écologique entre guillemets, à savoir la conservation des ressources naturelles, la pollution, l'extinction des espèces, etc. Et ce qui relèverait de l'autre, de ce qui serait exclusivement du social, hein, à savoir l'emploi, la santé publique, les inégalités, l'entretien, etc. etc. Donc pas de dissociation, donc, entre ce qui relèverait de la nature, proprement dit, et de ce qui relèverait de la société, mais à l'inverse, ce que l'on voit au travers de ces trois exemples, c'est une imbrication, une interrelation, et surtout une interdépendance des propositions entre ce qui relève du dedans et ce qui relève du dehors, de l'éthique et du symbolique, de la forêt pour les uns et du quartier pour les autres, et qui envisage cette dimension de l'environnement finalement comme autant d'enveloppes, de sphères possibles autant d'imbrications entre milieux et qui dégage déjà une vision de l'art écologique comme étant quelque chose d'écosophique, au sens où Félix Guattari le formulera en 89, et régénératrice, au sens où l'a prononcé Donna Haraway, et pouvant s'apparenter déjà à quelque chose comme un véritable soin des milieux de vie et une véritable culture des milieux. Donc maintenant que nous commençons peut-être à y voir un peu plus clair en termes de terminologie et de cadre et de généalogie de cet art écologique qui s'origine donc aux États-Unis, j'aimerais examiner ce qu'il en est des prolongements de l'héritage, de ses commencements, qui ont pris la forme pour l'essentiel de l'activisme, on l'a vu, et de l'action. Donc si on a dit, cet art écologique a mis extrêmement longtemps à trouver une reconnaissance pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, il y a aussi cet autre motif qui a très certainement joué comme frein ou comme verrou à la reconnaissance de cet art, et j'entends par là, la question de la grille d'évaluation de cet art en termes d'esthétique. Parce que c'est un art, on l'a vu, extrêmement utilitaire et tourné vers le faire, vers l'action, avec cette dimension performative, comme on vient de le voir, et c'est un art également qui dégondait bien entendu, cette vieille doxa distinguant l'art de toute autre chose et précisément en raison justement de son inutilité et de sa permanence. À l'opposé de cette difficulté de reconnaissance, on peut dire au contraire que depuis l'an 2000, il y a eu un formidable emballement critique et artistique pour les enjeux esthétiques et politiques de la dégradation de la Terre et des conséquences, bien sûr, que cela entraîne pour la survie de ses habitants. Donc, de nombreuses expositions ont vu le jour depuis les années 2000 aux États-Unis et en Europe et ont donné, finalement, ont commencé à donner une véritable visibilité à ces productions artistiques. Alors, qu'y a-t-il de profondément nouveau par rapport à ces premiers pionniers? Comment l'art et la création actuelle agissent-ils dans la prise de conscience et la sensibilisation des citoyens sur ces questions liées au devenir de la Terre et à ceux de ses habitants? Je proposerai deux axes. Le premier, que l'on peut appeler in vivo, pour dire le prolongement finalement de ces actions en extérieur sur le territoire urbain et périurbain, et un autre in vitro pour parler d'un retour des artistes à l'espace expographique, celui de la galerie ou de l'institution muséale, qu'ils avaient abandonné pour agir en situation et véritablement dans le réel des sites de l'espace urbain. Donc concernant les pratiques des artistes in vivo, si effectivement l'action se concentre toujours pour l'essentiel sur le territoire urbain ou périurbain, et si certains artistes prolongent, on va le voir, un activisme artistique individuel, ce qu'il y a de profondément nouveau aujourd'hui dans les pratiques actuelles, c'est l'arrivée et la formation de collectifs tout entiers qui s'associent au travers de projets participatifs, de projets collaboratifs avec des habitants, au travers d'un partage d'expériences, d'exploration, en prenant en charge aussi bien des questions d'ordre social, politique que culturelle. Donc ces collectifs sont extrêmement nombreux. Juste pour citer quelques-uns, SeedSize, par exemple, à Barcelone, qui est un collectif qui travaille beaucoup avec cette dimension et ce thème des voisins, un collectif danois très virulent qui s'appelle Superflex, Kiasma également qui travaille sur les délaissés urbains, Ecobox qui est un collectif parisien qui travaille beaucoup sur la question de l'alimentation et des jardins partagés, et notamment le parc d'art vivant à Turin, qui est un immense parc d'art contemporain dédié à l'écologie, le devenir indigène, Aubervilliers, etc., etc. Mais j'évoquerai juste deux projets en ce qui me semble représentatif de ces nouveaux collectifs artistiques et de ce nouveau régime esthétique qui constitue autant de manières de nous sortir un petit peu de notre anesthésie et de susciter la venue de nouveaux devenir sensibles et de nouveaux récits. Donc le premier de ces collectifs s'appelle Campement Urbain, et ce projet s'appelle Je et nous, et il a eu lieu à Sevran en 2002, et c'est un projet qui d'une certaine façon prolonge les questions artistiques de Houkles en ce qu'il parle bien entendu du soin et de l'espace public, et invente d'autres narrations, d'autres propositions par rapport à cette question du lien social que l'on nous dit perdu et qu'il faudrait à tout prix remailler. On sait que les politiques ont beaucoup utilisé cette dimension du lien social perdu. Donc ce qui me paraît essentiel ici dans ce projet par rapport à cette question d'espace public, c'est que ce collectif qui est allé vivre, échanger avec ses habitants du quartier des Beaudottes à Sevran, ont fait remonter quelque chose, un devenir sensible tout à fait nouveau et inédit, à savoir que le problème dans cette banlieue et ces banlieues n'était pas tant la question du manque, en fait, de lien social, comme on a cessé de l'entendre et de le répéter, mais bien plutôt l'impossibilité de choisir finalement une forme de lien. D'où la création de ce lieu avec les habitants, un lieu qui questionne à tous, qui appartiennent à tous, mais un lieu qui soit également le soin et la protection de tous, un espace commun comme un lieu où l'on puisse s'isoler. Donc c'est un projet qui est particulièrement intéressant, parce que l'on voit ici, au travers de cette saisie sensible et partager du réel, la possibilité de faire advenir quelque chose à partir duquel la pensée peut s'engager et d'autres récits advenir, quelque chose qui fait finalement rupture avec les commentaires et les lieux communs, avec ce que l'on présuppose finalement de l'effet, et qui conduit à une forme assurément d'anesthésie ou en tout cas d'abrutissement. Alors qu'ici, au travers de ce travail, de ce collectif, on comprend bien que ce sont des possibilités, des possibles qui ont été réveillés. Un autre projet et un autre collectif, il s'agit du collectif réuni autour de cet artiste qui s'appelle Stéphane Shankland et de ce collectif qui s'appelle HQAC pour haute qualité artistique et culturelle, qui est bien entendu un clin d'œil à la OHQE et donc à la haute qualité environnementale. Un clin d'œil, bien sûr, parce que c'est un projet qui est tout sauf normé, techniciste et technocratique. Donc HQSC est un projet qui a été mené à Ivry-sur-Seine par cet artiste, Stéphane Shankland, depuis 2007, au cœur du chantier de la ZAC du Plateau, donc sur une zone de 35 000 mètres carrés où se construisent des bureaux, des commerces et plus de 900 logements. Ce projet, sous la forme haute qualité artistique et culturelle. Son objectif, c'était en fait de transformer le temps et l'espace du chantier qui est finalement habituellement perçu comme un moment de nuisance et d'incompréhension, en tout cas de confiscation et d'inaccessibilité, de transformer donc cette temporalité et cet espace en un espace d'expérience et d'exploration sensible, en un lieu finalement où l'on peut produire et avec lequel produire, un lieu où, comme le formule l'artiste, se forme et se déforme notre représentation de la ville. Donc en 2010, c'est créé ce que vous voyez à l'écran, c'est un espèce d'atelier qui s'appelle Trans 305, qui est une structure multicolore et qui est un petit peu la partie visible de ce travail artistique et esthétique. Et il s'agit essentiellement d'un espace de partage qui accueille des résidences d'artistes et différents ateliers pédagogiques et expérimentaux. Et c'est un projet également extrêmement participatif et collectif, très élargi, puisque se sont associés à ce projet non seulement des architectes, d'autres artistes, des photographes, des graphistes, mais également des universités, l'université de Paris 1 avec son master sur l'espace public, des écoles d'architecture, Paris Malaquais, l'école spéciale d'architecture, mais également un laboratoire du CNRS, le laboratoire La Vue, avec notamment Stéphane Tonla, des écoles primaires, des collèges, des associations de quartier, et bien entendu, les habitants. Donc c'est donc à la fois un projet artistique qui exploite la forme du chantier en tant qu'atelier, prolongement de l'atelier, et c'est aussi, on le voit, un espace exploratoire, un belvédère, puisqu'il est possible de monter à l'étage de cet atelier, donc un belvédère qui profite de sa situation au cœur du chantier. C'est enfin aussi une sculpture qui a été fabriquée avec les habitants, une sculpture fabriquée au travers de collectes de déchets industriels récupérés sur le site, et notamment donc une sculpture lumière qui s'intitulait « Le monde change l'art, l'art change le monde ». Donc il y a dans ces projets... je ne peux pas m'arrêter. J'en ai pour... j'en ai pour 5 minutes, c'est fini. Voilà. Donc il y a dans ces projets un véritable déplacement qui tient au fait que ces artistes, non seulement se sont associés avec d'autres champs d'activité, en faisant intervenir, donc on a vu, des aménageurs, des architectes, des jardiniers, des chercheurs, etc., mais qu'ils ont également envisagé leur travail non plus en exception sur les autres activités, mais dans une forme de continuité et de partage, justement du sensible, partage du sensible, donc qui est énoncé par Jean Crancière, et qui formule cela de cette façon, c'est-à-dire autant de manières de rendre sensible, d'être sensible à un milieu au travers des sens, de l'imagination, qui n'est donc plus le propre, là on le voit, le propre et la seule compétence de l'artiste, mais qui s'ouvre à celle de tous ceux qui habitent finalement ces espaces de vie, et donc en première instance de tous ces habitants avec lesquels ces artistes ont pris part et ont collaboré. Donc au regard, en regard de ces collectifs artistes, Chris l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, il existe toujours ces activistes individuels qui continuent à travailler au travers de performances. Pour faire bref, donc là vous avez le projet, vous connaissez certainement ce groupe d'artistes, Lucie Herrera-Horta, qui exposait notamment jusqu'au mois dernier à la Villette certains de leurs travaux. Et pour faire court, en fait, ces projets d'activistes ou cet autre projet, notamment de Minerva Cuervas, en revenant finalement exposer au sein de galeries, ce que l'on voit de ces travaux, de ces activistes, sont finalement la dimension documentée des documentaires, voilà, des casseroles, des litres d'eau, des commentaires, finalement, qui sont une forme extrêmement desséchée de cette dimension écologique. Donc, j'ai visité, de la même façon qu'on a visité hier à Chamarande, ces expositions sur l'art écologique de ces performeurs, donc avec les étudiants, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont sentis complètement extérieurs par rapport à ce type de démarche. Pour poursuivre, en revanche, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant aujourd'hui et ce qui advient, ce qu'il y a de nouveau, en tout cas dans les formes qu'a pris l'art écologique aujourd'hui, on constate un retour à des pratiques de représentation au sein des espaces expographiques, alors que ce n'était absolument plus le cas avec notamment la génération précédente. Donc deux grandes tendances que je vais très rapidement dégager me semblent faire sens. Il s'agit dans un premier temps du retour de ce qui s'appelle les cabinets des merveilles et les cabinets des curiosités qui émergent dans le champ de l'art contemporain, et par ailleurs de l'amplification des espaces perceptifs et immersif de très très grande échelle. Donc les cabinets de curiosité, vous savez tous ce que sont ces cabinets des merveilles, les Wunderkammer, qui sont apparus au XVIe siècle et qui disparaissent subitement au XVIIIe siècle partout en Europe. Ce sont initialement donc des meubles, et puis ensuite cela a été des espaces tout entiers dédiés finalement à ce qui réunissait les merveilles et les curiosités du monde, c'est-à-dire la flore, la faune, les minéraux, les animaux, les œuvres d'art, etc., les appareils optiques. Mais ce qui est important, c'est que tous ces objets de la curiosité, de ces merveilles du monde, étaient exposés sans aucune distinction ou démarcation entre ce qui relevait de la nature et ce qui relevait de la culture. Donc, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est ce regain d'intérêt qu'ont les artistes de la création contemporaine, les artistes écologiques, pour ces Wunderkammer et ces cabinets des merveilles. Pourquoi ? Sans doute parce que ces chambres des merveilles, ces chambres des curiosités, drainent avec elles un monde finalement qui avait été exclu, c'est-à-dire l'étrange et l'étrangeté, l'étranger, l'hétérogène, le hors-norme, le monstre, et qui nous permettent quelque part de repeupler l'imaginaire et de faire advenir d'autres narrations. Donc voici un artiste, par exemple Marc Dion, qui récolte, qui collecte au travers de ses mobiliers toutes les traces finalement de notre contemporain, que ce soit les déchets, donc là au travers de sortes de clins d'œil, de diaporamas tels qu'on pouvait les voir aux États-Unis, d'autres projets très rapidement, donc de ces cabinets de curiosité. Et cette dimension de la collecte et de la collection est également extrêmement présente ici avec un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kochi Kurita, qui est quelqu'un qui collectionne depuis toujours, c'est-à-dire depuis 20 ans. Cet artiste constitue au travers d'une collecte inquiète et attentive une sorte de bibliothèque de milliers de poignées de terre prélevées partout dans le monde qu'il explore, finalement à la manière des grands voyageurs naturalistes du XVIIIe siècle. Comme si cette terre aujourd'hui que nous abordons finalement était également une terre inconnue, donc ces poignées de terre qu'il récupère et qu'il met dans des petits flacons ici, donc le sol, la terre de Fukushima, innocence, parce qu'elle est récoltée bien sûr avant ce que l'on sait de Fukushima. Deuxième axe, les espaces immersifs, et je terminerai là-dessus. Notamment, le retour aux espaces d'exposition à l'intérieur donc des musées, Olafur Eliasson notamment, Donc en 2003, Olafur Eliasson est invité à occuper les 35 mètres de hauteur de la salle des turbines à la Tech Moderne, avec un projet public qui va durer un peu plus de 6 mois. Et il réalise à l'intérieur de cet espace un énorme coucher de soleil à partir d'éclairage en tungstène et d'un miroir démultipliant comme ça l'espace, le tout baignant dans une brume vaporeuse orangée. Donc il travaille pour tous ses projets avec des scientifiques. De quoi parle ce projet, très rapidement? Premièrement, il nous permet de comprendre la dimension culturelle de la nature, c'est-à-dire que la nature comme artefact. Ensuite, parce que les dispositifs de son travail ne sont jamais masqués, on voit les lampes en tungstène, on voit tout l'arrière-scène de son travail, il n'entretient aucune forme d'illusionnisme avec le visiteur. Et cette mise en avant du caractère justement artificiel, artefactuel, permet donc de matérialiser véritablement l'interdépendance qui existe entre la nature et la culture, et de fait de faire comprendre que c'est nous véritablement qui produisons notre propre environnement, et donc que le climat est véritablement le fruit de notre activité. Et on voit qu'ici, l'interrelation ne procède pas d'une démonstration, comme ça a pu être le cas avec les exemples de Lucie Horta ou de Minerva Coerva, mais qu'il s'agit vraiment d'une suggestion au travers d'un espace immersif. Autre chose, enfin, dans cette œuvre, on voit que Eliasson a choisi de créer le spectacle d'un climat tempéré, d'un climat stable, invariable. Et par ce choix, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est aussi la dérive possible d'un climat égal, d'un climat sans aspérité, sans commencement et sans fin, mais au final un climat qui serait tout aussi invivable que les catastrophes climatiques que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un climat parfaitement inhumain. Donc entre savoir le climat, le documenter, comme ont pu le faire ces artistes, Horta, etc., ou l'imaginer, finalement, on voit ici qu'Eliasson combine dans ce projet deux réalités, en pensant le partage du sensible dans sa faculté aussi de générer du politique. Alors, juste pour conclure, si la question c'est en quoi l'esthétique est-elle en prise avec l'écologie, je dirais que plus que jamais elle l'est aujourd'hui, dans la mesure où elle peut permettre, là où le savoir politique et le savoir économique échouent ou nous manipulent, à une réelle prise de conscience par le sentir, en nous permettant de nous sentir de la Terre et non plus seulement sur la Terre, et non plus comme des habitants en exception, mais parmi les autres, parmi les non-humains. Et oui, encore, l'esthétique est en prise avec l'écologie dans la mesure où la création artistique, qui relève de l'expérience et de ce partage du sensible, dit par Rancière, a une véritable force propositionnelle, qu'elle peut permettre non seulement d'engager la pensée, mais aussi l'action, et au-delà, de nous permettre de raconter, de fabuler d'autres mondes possibles, d'autres rapports possibles au monde, si l'on veut bien croire que nos manières de raconter le monde forment aussi autant d'appâts pour pouvoir le métamorphoser.